Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour, ainsi qu'à l'équipe technique de Radio Courtoisie, au micro Marc Favre des Chalins. Dans le studio, je reçois Michel Feltin-Palas, journaliste à l'Express, essayiste, auteur. Notre entretien portera sur la langue française autour de son dernier livre, Les anglicismes et nous. C'est quoi déjà le mot en français? Je vous montre ça à la caméra. Je rappelle à nos éditeurs au préalable les coordonnées de défense de la langue française, 222 avenue de Versailles, 75 016 Paris pour son adresse postale, son numéro de téléphone 01 42 65 08 87, son adresse courriel dlf.contact@orange.fr et enfin son site internet www.langue-française-sanceli.org. Le site internet vient d'être renouvelé, donc je demande aux auditeurs de pouvoir le consulter pour voir les différences qu'il y a avec l'ancien site. Nos auditeurs qui le désirent peuvent demander un exemplaire de la revue trimestrielle de 80 pages de défense de la langue française afin d'avoir une connaissance approfondie des actions et des activités de cette association. Nos auditeurs qui le désirent peuvent demander naturellement aussi des éléments concernant les activités autres de défense de la langue française. Elles sont variées et variables d'ailleurs. Les adhérents et les sympathisants agissent sur le terrain, en particulier concernant les interventions auprès de la presse écrite et dans les médias audiovisuels afin de lutter contre les dérives de l'écriture inclusive et pour la qualité de la langue et en particulier contre les dérives de l'anglais que nous allons voir dans quelques instants avec des néologismes et des abus de l'utilisation de mots anglais. On entend souvent dans le milieu professionnel des mots comme workshop au lieu d'atelier ou de top management à la place de la haute direction. Donc nous en parlerons dans quelques minutes. Nos auditeurs qui sont intéressés peuvent effectivement aller sur le site de Jean-Pierre Collignon pour connaître les dates de certaines dictées, et la prochaine dictée est faite sous l'égide de Rachid Santaki, qui a créé la dictée géante. La prochaine dictée, ça se trouve le 11 avril à la mairie du 15e arrondissement pour les inscriptions. Il faut aller sur le site ac15.org olympiade-du-français. Et ça permet de pouvoir s'inscrire et de jouer avec les mots et la langue française. Nous faisons également des actions concernant, comme nos auditeurs le savent déjà, les contentieux pour les violations de la loi Toubon. Il faudra se reporter sur le site. Et avant d'avoir l'entretien avec Michel Feltin-Palas, je vais rappeler quelques-unes de ses publications. Cultivons la langue française, publié chez Héliopol 2023, et aussi Sauvons les langues régionales en 2022, toujours chez Héliopol. Et Le français, une si fabuleuse histoire chez Larousse. Et j'ai également chez Michel Lafond, avec Jean-Michel Apathy, J'ai un accent et alors. Il rédige également sur le site de l'Express une lettre d'information. Alors avant l'entretien, nous allons écouter une chanson de circonstance du groupe suisse qui s'appelle Les Fils du Facteur. Et la chanson s'intitule Je suis pas américain.
And I'm just a cowboy, oh, please don't follow me. I'm just a cowboy, oh, please don't love me, babe. Just a cowboy, oh.
J'rêve pas de faire la route 66 et encore moins celle de Memphis. J'ai rien en moi de Tennessee, j'suis pas d'accord avec Johnny. C'est pas le pays des libertés, ils passent leur temps à se bastonner. Le super rêve américain, c'est surtout le cauchemar des Indiens. Alors j'suis pas américain, et puis l'anglais j'y comprends rien. J'suis pas bilingue et c'est très bien. Paris c'est maladif, tout le monde veut chanter en rose vif. Peut-être que je vendrais plus de CD si moi aussi je faisais de l'anglais. La culture fast-food et cow-boy, ça m'a jamais trop fait rêver. La dernière chose que je souhaiterais, c'est certainement leur ressembler. Parce que je suis pas américain, et puis l'anglais j'y comprends rien. Je suis pas bilingue et c'est très bien. Solo d'américain. Faire la route 66 et encore moins celle de Memphis. J'ai rien en moi de Tennessee, je suis pas d'accord avec Johnny. Et si c'est Trump qui a gagné, j'en ai toujours rien à branler. Parce que je suis pas américain, et puis l'anglais j'y comprends rien, je suis pas bilingue. It's very good. Oh yeah.
Bah voilà une belle introduction pour notre entretien. Une réaction peut-être, Michel Feltin-Palace.
Non, je connaissais pas ce groupe. Je trouve que c'est intéressant parce que l'humour, c'est une arme très forte. L'art en général et l'humour, ce sont des armes très fortes, peut-être plus que les propos pontifiants que je vais tenir pendant une heure.
Très bien. Alors, le thème de l'émission, c'est l'anglicisation dans tous ses états, l'anglicisation rapide de la langue française par son vocabulaire, c'est la prononciation de certains mots et également maintenant la syntaxe. Alors, vous pouvez peut-être nous en déjà dire, et je rappelle naturellement aux auditeurs et aux téléspectateurs, le livre de Michel Feltin-Palace, les anglicismes et nous, et surtout c'est quoi déjà le mot en français. Donc vous venez nous expliquer pourquoi ce livre et les dérives que l'on peut constater. Est-ce qu'il faut être alarmiste, avoir des inquiétudes et puis des attitudes des Français et des élites devant ce phénomène?
Tout à fait, mais je vais commencer peut-être par lever deux ambiguïtés. Je n'ai rien contre l'anglais et je n'ai rien contre les emprunts du français aux langues étrangères. Alors, ça peut paraître curieux. Je n'ai rien contre l'anglais parce que moi j'aime toutes les langues. Je suis un amoureux de la diversité culturelle. Vous avez rappelé que je défends également les langues dites régionales. Moi, donc, j'aime toutes les langues. L'anglais est une langue, donc vive l'anglais.
Moi aussi, j'ai mis une cravate de circonstance, un drapeau français et un drapeau britannique.
J'ai vu ça. Donc, je n'ai rien contre l'anglais. J'ai même une certaine admiration pour la culture britannique. Il y a une grande littérature, donc pas de problème. De principe avec l'anglais. Je n'ai rien non plus contre les emprunts. Pour avoir écrit un livre sur l'histoire de la langue française que vous avez eu la gentillesse de rappeler également chez Larousse, je sais que le français a toujours emprunté à de multiples langues étrangères. On a beaucoup emprunté à l'italien, par exemple, alarme, c'est alarmé, aux armes, alerte, c'est alerté sur les hauteurs. Très bien, on a emprunté à l'arabe au Moyen-Âge, parce qu'il y avait des grands scientifiques arabes, je crois.
Et puis il y a beaucoup des langues régionales qui ont irrigué.
Tout à fait.
Certaines, pas toutes d'ailleurs.
Tout à fait, mais par exemple, amour est un mot qui vient de l'occitan, tatoué, ça vient du polynésien.
Le vocabulaire de la marine vient du flamand, beaucoup.
Alors là, vous me l'apprenez, mais sans doute. Voilà, donc. Je n'ai rien contre l'anglais, je n'ai rien contre les emprunts en soi. Alors pourquoi écrire un livre qui dénonce les emprunts à l'anglicisme? Pour une raison simple, c'est qu'on a basculé dans une autre proportion. Je vous donne ces chiffres que j'ai appris en faisant l'enquête qui sont, de mon point de vue, affolants. On estime qu'il y a 6000 à 7000 langues dans le monde. Le français, pendant 3 ans, pendant les années 2020-2022, a emprunté 144 mots exactement au lexique étranger. 144 mots sont entrés dans le Larousse et dans le Robert entre 2020 et 2022. Je rappelle qu'il y a, mettons, 7000 langues dans le monde. Sur ces 144 mots, 119 venaient de l'anglais. 80% de nos emprunts à l'ensemble des langues étrangères proviennent d'une seule de ces langues et 20% des 6999 autres. Je n'aurais pas écrit ce livre si sur les 144 mots en question, mettons une grosse dizaine venait de l'anglais. Je comprends que l'anglais soit la première langue d'emprunt, parce que l'anglais c'est la langue des États-Unis, qui est la première puissance culturelle, économique, technologique, donc il y a beaucoup de choses qui sont inventées sur place. Il est logique que les États-Unis créent des mots dans leur langue. Et ces mots nous arrivent, on n'a pas de concept équivalent, donc on en emprunte certains. Parfois on essaie de les remplacer, mais c'est logique. Mais on n'est pas à 10, on n'est pas à 20, on n'est pas à 30, on est à 119. Et donc cette disproportion fait qu'on n'est pas dans l'emprunt classique, normal, à l'ensemble des langues, mais dans la domination d'une seule. D'autant que dans l'autre sens. Il y a des mots français qui sont entrés dans la langue anglaise. Au début des années 1900, dans la décennie 1900-1909, 350 mots français sont entrés dans les dictionnaires anglais. 350. Ce nombre est tombé à 35 dans la décennie 1980-1989. Et savez-vous, Marc, combien de mots français sont entrés dans les dictionnaires anglais depuis le début du troisième millénaire en 25 ans ? Zéro. Ah oui. Zéro, zéro. Et donc, quand 80% des emprunts du français à l'ensemble des langues étrangères proviennent d'une seule langue, l'anglais, et que le français n'a pas exporté un seul mot vers l'anglais depuis 25 ans, il me semble qu'il n'est pas abusif de considérer qu'on n'est plus dans l'échange enrichissant, jubilatoire, joyeux entre les langues, mais dans la domination, voire dans l'hégémonie d'une seule langue. Oui, et donc ça fait porter, de mon point de vue, une menace sur la diversité culturelle à laquelle je suis tant attaché. Je vous jure que j'aurais écrit le même livre si ce phénomène profitait aux Japonais, aux Lettons, aux Catalans ou à ce que vous voulez. Ce n'est pas l'anglais qui est en cause, mais c'est la standardisation culturelle dont il est aujourd'hui le vecteur.
C'est souvent l'anglais d'Amérique d'ailleurs, c'est souvent
l'anglais américain. Alors vous avez raison, c'est l'anglais des États-Unis, voire même de Californie. Alain Ray, l'ancien patron du... enfin feu, le patron du Petit Robert, parlait de californisme plus que d'anglicisme. Mais là encore, encore une fois, il est normal, quand un pays domine d'un point de vue technologique, économique, militaire, culturel, bah forcément, c'est à cette langue qu'on emprunte le plus. Au XVIe siècle, sous la Renaissance, le français a énormément emprunté à l'italien.
L'italien, c'était même...
Pourquoi ? Parce qu'en Europe, sous la Renaissance, bah, l'Italie, il se débrouillait quand même pas trop mal avec Florence, Venise, Gênes et les autres. Et donc, je crois, pittoresque, c'est digne d'être peint. C'est un terme qui vient de la Renaissance italienne, parce qu'il est très fort. Les architectes italiens étaient brillants. Appartement, ça vient de balcon, ça vient de l'italien, etc. Donc, quand un pays domine militairement, culturellement, eh bien, il exporte des mots. Ça me va.
Je crois qu'il y avait une réaction.
Et il y avait une réaction.
Une réaction assez forte.
Tout à fait. Il y avait eu un pamphlet qui s'appelait d'Henri Estienne, qui avait écrit contre les italianismes, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'emprunts à l'italien à l'époque. C'est tout à fait...
C'était des langues assez voisines.
Donc ça facilitait également les emprunts. Et puis, il y avait les Médicis à la cour du roi de France. Donc, ils avaient vraiment tout un prestige. Donc, ce phénomène existe. Au 17e, 18e, ce phénomène a profité aux Français, qui étaient à l'époque la plus grande puissance. Voilà. Donc, quand un pays domine, il crée beaucoup de mots. Ces mots arrivent dans la langue initiale dans les pays étrangers, qui les adaptent plus ou moins. Ça, c'est normal. Mais la proportion actuelle est folle, d'autant que, comme vous l'avez rappelé, on a y compris des mots français bien installés qui sont remplacés par des mots anglais. Si on empruntait, je ne sais pas moi, uniquement blockchain ou ce genre de mots, vous voyez, technologique, bon, admettons. Mais expliquez-moi pourquoi on remplace vérifier par checker. Pourquoi on remplace tendance par trend. Et puis des exemples comme ça, on peut faire les trois.
On emploie maintenant le mot défectif pour décevant.
Voilà, mais des mots comme ça, on peut faire toutes les missions juste en les citant. Et les auditeurs, je pense, que le savent.
Oui.
Donc, c'est vraiment frappant quand deux francophones entre eux éprouve le besoin de remplacer un mot français bien installé par un mot anglais qui n'apporte rien de plus, c'est qu'il se passe autre chose, on en parlera peut-être, c'est un phénomène que les linguistes connaissent bien, qui s'appelle la honte de soi, et ça c'est relativement inquiétant.
Les diglossies, il y a la langue dominante et la langue...
Tout à fait, alors la diglossie c'est quand il y a deux langues sur un même territoire avec une langue qui est considérée comme haute et une langue qui est considérée comme basse. Alors, on n'en est pas tout à fait là. Dans certaines entreprises, vous avez raison.
On en est déjà là, malheureusement.
Voilà, utiliser un mot français, c'est passer pour ne pas être dans le ton et dans la modernité, donc c'est inquiétant. Globalement, on n'en est pas là. En revanche, c'est ce qui s'est passé de manière typique au détriment des langues dites régionales, où à partir d'un moment, il était... La langue de prestige, c'était le français. Il ne fallait plus parler occitan, corse ou breton. Voilà, donc il y a un moment... Ça s'est passé de la même manière au détriment du gaulois par rapport au latin. Le latin était la langue noble. Voilà.
Dans le livre, il a fallu quand même 500 ans ou 400 ans pour éradiquer le gaulois.
D'après les linguistes, oui.
Et puis le français est devenu... il a fallu quand même pas loin de 1000 ans pour que la langue française ou la langue romane arrive sur le territoire de la France actuelle, en fait.
Alors, se généralise.
Disons.
Hein. Le français apparaît, alors les linguistes en débattent, c'est jamais un jour donné qu'une langue apparaît.
Non, c'est pas le serment de
Strasbourg. C'est une longue évolution entre le latin tardif, puis le début du français, etc. Mais mettons, 5e, 6e siècle, on ne parle plus latin. Je ne sais pas si on parle déjà français, mais on ne parle plus latin. Et on ne parle français dans tous les territoires de France que depuis la deuxième moitié du XXe siècle.
Oui, c'est ça. Claude Duneton disait en 1940 dans les provinces sur les places on parlait la langue locale, la langue régionale et on parlait deux langues.
La langue historique du territoire et le français. Pour moi, c'est un objectif qu'on devrait se refixer parce que c'est notre richesse collective. Le français comme langue commune, mais pas le français comme langue unique, parce que là aussi c'est un appauvrissement. De la même manière, imaginons une Europe où l'on ne parlerait plus que l'anglais. Imaginons que...
C'est ce que l'Union Européenne, certains membres de l'Union Européenne
peut-être
souhaitent.
Peut-être certains en rêvent-ils. Moi, je m'y opposerais de toutes mes forces. Imaginez, la richesse de l'Europe, c'est sa diversité. Imaginez un jour, funeste, où tous les Italiens parleraient anglais, où tous les Allemands parleraient anglais, les Espagnols parleraient anglais, etc.
C'est le commissaire au commerce, qui est, je crois, un Slovaque, souhaite faire pour les ratifications des traités, suite aux difficultés que l'Union européenne a eues à faire valider le Mercosur, de faire que tout le processus de ratification soit en anglais, et il souhaite le mettre en œuvre comme un exemple, comme un test pour la signature du prochain traité avec l'Inde.
Ah oui,
la France s'y oppose très fortement. Avec d'autres, parce que la France, bon, on critique souvent, mais l'État français intervient tout de même souvent, malheureusement uniquement en défense. Et récemment, il y a eu pour un appel à candidature concernant la direction du climat et de l'environnement, il y avait un appel à candidature où la Commission européenne souhaitait que les candidats puissent avoir un haut niveau d'anglais, c'est le niveau B2. Mmh. Et la France a protesté, elle était appuyée par la Belgique et l'Italie. Et la Cour de justice a donné raison à la France.
Très bien.
Parce que c'est toujours... Il faut bien lire les arrêts, puisque le tribunal indique que c'est parce que la Commission n'a pas réussi à prouver que c'était nécessaire de parler anglais. Donc, à un tel niveau.
Oui.
Donc, parce qu'il y a différents niveaux. Donc, effectivement, la difficulté dans toutes ces affaires-là, pour l'Union européenne, c'est que les États qui s'opposent sont toujours en défense.
Oui.
Il y a un peu, ça agit comme une sorte de coup de force, et puis après, on attend, on réagit. Donc là, pour l'instant, c'est un ballon d'essai que fait le commissaire au commerce de l'Union européenne, mais... La France a tout de suite, pour l'instant, réagi. Donc ça, c'est un bon point.
C'est un bon point. C'est un bon point. Ce n'est pas systématique.
Oui, ce n'est pas systématique.
Il faut le relever, et d'autant plus.
Il faut le relever, d'autant plus qu'on a à la tête de l'État, tout de même, un président qui a une tendance à parler...
Petite.
Une grosse tendance à parler anglais.
Oui.
Ou à montrer qu'il parle anglais.
Mais c'est intéressant, vous voyez, parce que Emmanuel Macron, on est pour, on est contre. On ne peut pas lui enlever le fait que c'est quelqu'un qui a réalisé de brillantes études, qui est cultivé... et qui a créé le seul grand travaux, je ne sais pas si vous le dire au singulier ou au pluriel, de son double quinquennat, c'est la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Donc on peut se dire, voilà quelqu'un qui a fait des grandes études, qui a un attachement au français. Et pourtant, il multiplie les anglicismes de manière caricaturale.
Prises
de parole en anglais, y compris sur le territoire national. Il a parlé en anglais au sommet du tourisme qui se tenait à Chantilly.
Et le Chousse-France,
Le Chousse-France, etc. Donc on voit bien que c'est insupportable. Et pourquoi ? Ma conviction... c'est que nous n'avons pas en France d'éducation linguistique. L'école nous dispense, et c'est heureux, une culture littéraire. On nous initie à Molière, Balzac, Victor Hugo, les autres, voilà, et les instituteurs et les professeurs de français font ce qu'ils peuvent dans le cadre donné. En tout cas, on a une initiation à ça. À aucun moment, on ne nous donne une éducation linguistique. On ne nous explique pas, je sais pas, par exemple, quelles sont les langues parlées en France, la différence entre les langues d'oïl et les langues d'oc, d'où vient le breton. C'est quoi les langues indo-européennes et surtout, on ne nous apprend pas que toute langue est une merveille. J'aime donner un exemple très court qui me bouleverse d'une certaine manière. Il y a une langue dans le monde, Marc, où c'est le même mot pour dire hier et pour dire demain. Cette langue, c'est l'hindi, parce que dans la civilisation hindi, derrière une langue, il y a une civilisation, une certaine manière de voir le monde. Et bien, dans cette langue, l'important, c'est le moment présent. De ce point de vue, hier, ça n'est plus le moment présent. Demain, ça n'est pas encore le moment présent. Donc, c'est le même mot. Et vous voyez, à travers cet exemple un peu extrême, à quel point, effectivement, derrière une langue, il y a une certaine manière de représenter le temps qui passe.
Il y a une vision du monde.
Voilà, le rapport à la nature, les relations entre les hommes et les femmes, etc. Et c'est pour ça que toute langue est une création culturelle de l'humanité et que toute langue doit être défendue, préservée, sauvée, qu'elle soit une grande langue internationale parlée par des millions d'individus ou une langue petite en nombre, pratiquée par quelques dizaines de personnes au fin fond d'une forêt d'Amazonie ou d'une vallée française, toute langue est une merveille et doit être défendue au même titre qu'une chapelle romane, qu'un château fort, qu'une partition de musique classique. Toute langue est une merveille, mais ça, on ne nous l'apprend pas. Et on nous apprend qu'une chose en France. J'espère ne pas choquer vos auditeurs. On nous a appris en France que les langues régionales n'avaient aucun intérêt, d'ailleurs, ce n'est même pas des langues, c'est des patois, et qu'on peut s'en débarrasser, puis que le français, c'est plus utile. Voilà le discours qui est donné. Eh bien, Emmanuel Macron a été bercé par ça, et puisqu'on lui a appris que les langues, ça ne compte que si elles sont utiles...
L'utilitarisme.
Si, il y a une langue qui est plus utile que le français. C'est l'anglais. Et donc Emmanuel Macron, il dit, je parle anglais, c'est plus utile, parce qu'il a été formé comme ça. Et je crois profondément que le jour où tous les Français apprendront que toute langue est une richesse, on sera à la fois de meilleurs défenseurs de nos langues dites régionales, qui peuvent coexister à côté du français. Le français doit être notre langue commune, mais il n'est pas obligé de devenir notre langue unique et de tuer les autres langues. Mais du coup, on sera également de meilleurs défenseurs du français face à l'anglais. Et si on formait les enfants de France comme ça, le prochain président de la République des années 2050, 2060, 2070, quel que soit son bord politique, quand il ira à l'étranger, et a fortiori quand il s'exprimera en France, il le fera en français.
Oui, parce que là, c'est très choquant lorsque Emmanuel Macron, indépendamment du fond, s'exprime en anglais pour...
C'est insupportable.
Ça n'est... fait récemment, concernant l'Ukraine, une visioconférence de l'Élysée en anglais. Donc,
c'est insupportable. Ça n'est... Pour moi, c'est une atteinte à la fonction du président de la République, vraiment, quelles que soient les idées politiques du président en question. Et c'est grave, parce que c'est un symbole important. Que vous ou moi nous exprimions en anglais, c'est pas très grave, parce que nous, on n'est pas des gens importants, mais le président de la République française, mais ça, pour moi, il devrait y avoir un article dans la Constitution qui oblige le président à parler français. Quand même, on organise, je vous cite un exemple, on a organisé en France The One Planet Summit for the Ocean à Brest.
Ah oui, non, mais
c'est... enfin, complètement. Si encore il n'y avait pas de traducteur, si encore il n'y avait pas d'interprète, si encore... Mais enfin, c'est ridicule. Évidemment, quand vous faites un sommet mondial comme ça en France, tout le monde comprendra très bien. Exact. Quand Donald Trump s'exprime, il s'exprime en anglais, et il dit aux autres, débrouillez-vous pour comprendre. Et il a raison.
On l'a vu aux Jeux Olympiques à Paris, où il y avait de toutes les incrustations sur les écrans étaient uniquement en anglais. Oui. Alors que c'était organisé, c'était fait par France Télévisions, il aurait pu y avoir les incrustations en français. Et on l'a vu encore récemment aux Jeux Olympiques, cette fois-ci en Italie, là, de Milano. Milan Cortina, où il y avait beaucoup d'anglais. Bon, formellement, le français était toujours indiqué, hein. Mais on voit bien que les journalistes en particulier employaient par exemple « mass start » au lieu de « départ groupé », alors que la délégation générale à la langue de France et aux langues de France avait fait un opuscule, et surtout sur Internet, où on pouvait retrouver en quatre langues le « mass start », « départ groupé » en français et en italien. Et les journalistes n'ont pas du tout repris, ni dans la presse écrite et tout ça. Donc,
mais il y a deux raisons à cela. Il y a la raison que je citais, ni Emmanuel Macron, ni les journalistes n'ont été éduqués à la diversité linguistique, à la richesse des langues pendant leur scolarité. Et puis deuxièmement, il y a un phénomène qui est plus particulièrement sensible dans ma profession, le journalisme, c'est que ce sont des professions qui sont sensibles à la modernité. Voilà. Je veux paraître moderne. C'est important pour un journaliste d'être moderne.
Pour la publicité.
C'est vrai de la publicité, c'est vrai de la communication, etc. Et par rapport au sport, j'avais discuté effectivement avec le délégué à la francophonie pour le sport, qui avait travaillé avant l'organisation des...
Ils ont beaucoup travaillé pour les Jeux Olympiques à Paris et aussi à Milan. Hein.
Et vous savez ce qu'un grand quotidien a répondu à ce délégué quand il les a sensibilisés au fait d'utiliser le français dans leur colonne ? Ils ont répondu, le français, on s'en fout. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Pourquoi est-ce qu'un journaliste, je ne vous parle de corporatisme, mais c'est quand même des gens qui ont fait des études, qui aiment écrire, donc qui aiment lire aussi, qui sont sensibles théoriquement au français, pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? Parce qu'à aucun moment, on ne leur expliquait que la langue, c'est une richesse. Jamais ils ne diraient Notre-Dame de Paris, quand elle a brûlé, on s'en fout, c'est un tas de pierres qui sert à la superstition. Voilà, parce qu'on nous a appris que c'est une œuvre d'art. Voilà, et donc tous les Français, même au-delà...
Vous l'expliquez dans votre livre, il y a un référent en langue française chez TF1, Jean-Claude Narcy.
Oui.
C'est un référent
c'est affolant,
très souple.
Mais bien sûr. Voilà, parce que nous ne sommes pas éduqués. Et donc, défendre le français, c'est être ringard, c'est être facho, c'est être nul, c'est n'avoir rien compris à la modernité, etc. Tant qu'on n'aura pas réussi à modifier ses perceptions, notre combat est difficile. Voilà. Et moi, je crois profondément que c'est possible, je crois que c'est juste. Voilà. Défendre la diversité culturelle, c'est une cause juste, c'est évident. C'est évident. Qu'est-ce qu'on penserait, je ne sais pas, si dans le domaine culturel, en matière de musique, on ne prenait que le, en musique classique, pardon, voilà, on ne prend que de la musique allemande. Et on laisse tomber la musique française, la musique italienne, la musique... Tout le monde dirait, mais vous êtes fous, c'est très bien la musique allemande, il n'y a aucun problème.
La musique italienne, à l'époque de Mozart, où les Allemands, les petites principautés allemandes ne voulaient entendre que de l'italien et Mozart.
Il y a des phénomènes de snobisme, oui, de snobisme. Toujours. Voilà.
D'ailleurs, dans la langue, on le voit très bien.
Mais l'idée, oui, moi je n'ai rien contre la musique allemande, mais j'ai pas envie, j'aurais pas envie qu'il y ait que de la musique allemande. Et bien, de la même manière, je n'ai rien contre l'anglais, mais j'ai pas envie qu'il y ait que de l'anglais.
Exactement.
Voilà.
Non, mais vous avez.
Et ça, le jour où on expliquera ça à tout le monde, je vous assure que dans les Jeux Olympiques de 2182, on sera plus là, vous et moi, pour les voir.
Oui.
Et bien, peut-être qu'effectivement, les journaux français seront plus ouverts à la
et
défense
puis,
de la langue française.
Il y a aussi une certaine. Il y a eu récemment les Jeux, en 2023, les Jeux de la francophonie, qui se trouvaient à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et ça n'a pas du tout été couvert par la presse et les médias français. C'est-à-dire qu'il y avait tout de même, je crois, 2000 athlètes.
Oui.
Donc ça, c'est la francophonie, entre guillemets, sportive. En plus, c'est un petit peu comme les anciens Jeux Olympiques. Il y avait des épreuves de poésie, comme les Jeux Olympiques avec Pierre de Coubertin, où il y avait, en 1900, il y avait des épreuves, des épreuves littéraires.
D'accord, je ne savais pas.
Évidemment, c'était souvent les Français qui gagnaient aux Jeux de Paris. Et le jeu de la francophonie, il y a les épreuves de chansons, de toutes sortes, et une dizaine d'épreuves. Mais ça n'a pas du tout été repris par la presse française, alors qu'en Afrique, ça a été assez important. Alors que les Jeux du Commonwealth, en Angleterre, c'est repris fortement. Donc c'est un petit peu la même philosophie. Et donc là, on voit tout de suite qu'il y a un désintérêt de la presse, de la presse nationale ou des grands journaux. Il n'y a pas que National, Ouest France est un très grand journal, donc c'est pas repris, repris dans le... Même si, voilà, donc c'est le... Donc on revient aussi un peu à l'attitude à la fois des Français en général, et puis des élites, ou des pseudo-élites. Alors... Les élites, c'est à la fois, c'est politique, c'est médiatique, c'est intellectuel.
Il faut dire un mot des élites. L'histoire, le monde, ce sont toujours les... Alors je mets des élites entre guillemets, les gens qui ont des fonctions dirigeantes dans une société, sont toujours les élites qui trahissent, entre guillemets, les premières. Ça s'est passé comme ça du temps du Gaulois. Les premiers qui sont passés au latin, ça a été les chefs gaulois et leurs enfants. Ils ont envoyé leurs enfants apprendre le latin dans les écoles d'Autun, de Rome, de Marseille, parce qu'ils avaient compris que maîtriser le latin, c'était la meilleure manière de s'élever dans la hiérarchie sociale. Ça s'est reproduit par la suite au détriment des langues dites régionales. On a vu souvent des élites passer aux Français, alors que personne ne leur demandait, parce qu'elles avaient compris, elles aussi, que maîtriser le français, eh bien, ça permettait de s'élever dans la hiérarchie sociale. Et je prends souvent l'exemple du Capitole de Toulouse, grande ville de la Languedoc, qui était sans doute la principale rivale du français. Le Capitole est passé aux Français bien avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts, de lui-même. Même chose à Aix-en-Provence, même chose à Bordeaux, etc. Et aujourd'hui, sans que rien ne nous y oblige, un certain nombre de membres des élites francophones utilisent des mots anglais parce que, alors l'anglais n'est pas encore langue officielle en France, à ma connaissance, mais parce qu'elles veulent s'arroger la modernité associée aux États-Unis. On ne fait pas n'importe quoi. Quand certains disent « ils utilisent l'anglais, c'est n'importe quoi ». Non, quand on parle, on ne fait jamais n'importe quoi. Il y a un style verbal qui dit quelque chose de vous au même titre que notre style vestimentaire. Et donc, quand je remplace un mot français par un mot anglais, je ne le fais pas pour n'importe quelle raison, consciemment ou inconsciemment, c'est pour tenter de me vernir de la modernité associée à l'anglais, donc aux États-Unis. Parce que les États-Unis, je le répète, première puissance culturelle, économique, technologique, etc.
On voit également que les mots, quand ils sont intégrés dans la langue française, ne sont plus intégrés ou francisés comme, je ne sais pas, paquebot, le fameux...
Oui, paquebot qui est devenu paquebot, riding coat qui est devenu redingote.
Ça, des mots, d'ailleurs, on ne se souvient plus maintenant, plus du tout. Donc ça, c'est un mot qui est intégré. Alors que là, on prend le mot brut avec la prononciation.
Parfois.
Parfois. Donc, ça joue, et ça joue aussi sur des mots français où certaines personnes ne savent même plus.
Voilà, challenge, par exemple.
Oui.
Qui est un mot tout à fait français, qui veut dire défi. Voilà. Et qui est prononcé. Alors, qui a été pris par les Anglais qui le prononcent à l'anglaise, donc challenge. Et que maintenant, les Français prononcent challenge. Alors que c'est un mot. C'est comme si on disait rendez-vous ou bourgeoisie. Vous voyez, voilà, c'est aussi ça. Ridicule que ça. Bon, les gens ne le savent pas. Voilà. Donc, effectivement, on est dans des phénomènes. À mon avis, extrême. Encore une fois, je n'ai rien contre les emprunts, je n'ai rien contre l'anglais, mais on arrive à autre chose. Et le problème, si vous voulez, c'est que ce sont les professions qui ont une influence, dont le langage influence les autres, qui sont les plus sujettes à utiliser des anglicismes. Si, je ne sais pas, c'était les bûcherons jurassiens qui utilisaient des anglicismes, bah, ça resterait entre eux. Je n'ai rien contre les bûcherons jurassiens. C'était des pêcheurs de Boulogne-sur-Mer ou des bergers béarnais. Alors, c'est chez moi, donc j'adore. Voilà. Si c'était ces gens-là qui utilisaient des anglicismes, bah, ils le feront entre eux, c'est pas grave.
C'est un jargon, c'est un peu comme dans une
entreprise. Voilà. Mais quand ce sont des publicitaires, bien, quand un publicitaire décide de mettre un mot anglais, comme c'est de la publicité, ça touche tout le monde. Quand ce sont des journalistes qui utilisent des mots anglais, ça touche tout le monde. Quand ce sont des entreprises qui se baptisent avec des mots anglais, je suis désolé, je vais attaquer une entreprise, mais pourquoi a-t-on des carrefours market et pas des carrefours marché?
Exactement.
Pourquoi a-t-on des carrefours city et pas des carrefours cité? Vous croyez sincèrement qu'un seul client ne serait pas rentré dans un carrefour cité et qu'il va rentrer dans un carrefour city?
Les KFC en Amérique, au Québec, c'est le poulet frit du Kentucky. À la mode, d'ailleurs, c'est à la mode du Kentucky.
D'accord.
Et donc, c'est plus KFC, c'est PFK.
Oui, voilà, bon.
Et ça empêche pas d'une réussite pour.
Il y a une sorte de paresse intellectuelle. Si vous voulez. Je suis publicitaire, j'ai une super idée, je vais mettre un mot en anglais. Waouh!
En plus,
toi, t'es un créatif, hein. T'as pensé à mettre un mot en anglais, c'est génial.
Partout, on voit. Des fois, dans les églises, on voit l'écho du clocher, et des fois, on voit news de l'église.
Ouais.
Donc,
oui, mais parce que vous voyez, ça rejoint ce que je disais. Ces professions qui multiplient les anglicismes beaucoup plus que la moyenne, elles ont une influence sur les autres parce qu'elles sont entendues, et plus grave encore, ce sont elles qui donnent le la de la modernité. Vous voyez, je reprends l'exemple inverse. Si les bergers béarnais, auxquels je suis tant attaché, défendaient la langue française, ils le font d'ailleurs, bah, ça n'a pas d'influence sur les autres. C'est pas eux qui donnent le la de la modernité,
oui.
Peut-être à tort, mais c'est comme ça. Ces professions-là, il y a un double effet négatif. Elles sont influentes sur les autres, et c'est elles qui donnent le la de la modernité. Et donc, eh bien, le curé de la pauvre paroisse que vous citez, le commerçant qui ouvre sa boutique...
Il y a eu Happy Games par l'Église de France au moment en 2024. D'ailleurs, la conférence de l'Église de France a reçu la carpette anglaise
Ça m'avait échappé.
Oui, oui.
D'accord.
Pour cette raison.
C'est terrible. Mais oui, en fait, les responsables, ce sont les élites, parce que c'est elles qui ont une influence sur les autres, et après, ça descend petit à petit.
Mais
ça descend en vague.
Pour la publicité, il y a aussi l'influence des grosses compagnies américaines, où il y a les capitaux qui sont dans les...
Oui, mais remarque, vous le savez, on a en France une loi qui s'appelle Toubon, la loi Toubon sur la langue française, qui a un article qui est très précis, qui dit quand une langue étrangère est utilisée dans la publicité, sa traduction française doit être aussi lisible... aussi audible ou aussi visible que l'original. Or, tous les auditeurs le constateront, il faut regarder une affiche dans la rue avec un mot en anglais qui doit faire 3 mètres, chaque lettre fait 3 mètres de haut,
et
la traduction de 2 cm. Alors j'ai enquêté pour le livre, il y a une autorité en France, une autorité de régulation professionnelle de la publicité,
la RPP.
Voilà, qui est chargée de vérifier ça. Et alors, donc toute publicité passe par cette... Et on veille, ce qui est très bien, ce qui est pour que la publicité ne soit pas sexiste, raciste, antisémite et tout ça. Très bien. Mais elle veille aussi au respect de la loi Toubon. Et donc moi je suis allé les voir, et j'aurais sorti 15 affiches où c'était l'anglais en très grand et le français en tout petit. Et je leur cite l'article de la loi Toubon. Et vous savez ce qu'ils ont osé me répondre les yeux dans les yeux? Aussi, ça ne veut pas dire en lettres aussi grandes.
Ah oui.
J'aurais dit, mais vous rigolez. Alors, comme j'avais prévu le coup, j'avais sorti la définition du petit Robert. Qui dit en proportion comparable, je ne l'ai plus par cœur, mais c'est l'idée. Non, non.
Voilà. Non, là,
or, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fameuse ARPP est composée de publicitaires. Donc moi, je propose qu'on garde cette très belle philosophie partout et qu'au commissariat du quartier, on enlève les policiers, là, on y met des voleurs. Et on dit aux voleurs, courez après les voleurs, ça va très bien marcher. Donc l'ARPP, je suis désolé, c'est un scandale. elle ne fait pas son boulot, elle enfreint la loi Toubon tous les matins, tous les soirs, tous les midis, et moi je suggère qu'on renforce la loi Toubon, qu'on la fasse appliquer, et que la RPP, qu'on change la composition de la RPP, et qu'on y mette notamment des représentants de défense de la langue française ou de qui vous voulez, mais des gens qui seront sensibles à l'application de la loi, parce que là c'est un scandale.
Il faut préciser que la RPP, sur son site, indique qu'ils appliquent la loi comme de la façon dont vous dites, mais qu'ils appliquent également une notion que le Conseil d'État valide, c'est la notion de droit souple.
Là, ils peuvent faire les Jeux Olympiques en gymnastique, ils vont faire le grand écart tous les matins.
La notion de droit souple, c'est quand le Conseil d'État considère, sans doute dans des matières que le Conseil d'État ne doit pas considérer de façon très forte quand même,
ils
peuvent faire une interprétation, et donc c'est un petit peu, on fait une interprétation sur la bonne volonté des contrevenants.
Mais pardonnez-moi, vous allez dire que j'ai des fixettes, et c'est sans doute vrai, mais je pense que les membres du Conseil d'État non plus, ils n'ont pas eu cette éducation à la diversité culturelle. Le problème en France, c'est que 90% des élites, entre guillemets, considèrent que défendre le français, c'est ringard. On m'a expliqué, je n'en ai pas la preuve absolue, que quand le pass culture a été lancé en France, un pass culture,
sans
le ministère, voilà, in fine, sans eux, le ministère de la Culture l'a proposé de l'écrire pass, PA2SE, hein, comme passeport, passe-partout, voilà. C'est comme ça que ça s'écrit en français. Et que, alors je n'ai pas la preuve, mais que le E aurait été enlevé à l'Élysée. Donc, ça vous donne l'idée, en tout cas on l'a fait, hein, le pass culture en France s'écrit sans E. Je sais que les Français sont...
Comme le pass Navigo.
Comme le pass Navigo. Je sais que les Français sont des petites choses fragiles, mais je pense qu'ils auraient supporté de voir le pass culture écrit avec un E et qu'il n'y aurait pas eu d'émeute ni de crise cardiaque dans le pays. Voilà. Donc quand on en est là, ça veut bien dire que nos élites, une grande partie de nos élites sont persuadées que défendre le français, c'est ringard. Et c'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a dit, mais les ministres, ils ont peur de défendre le français. Ils vont être mal vus par la presse.
Ah oui, exactement.
Et on vient toujours à la boucle, parce que les journalistes non plus. Le jour où, dans toute la scolarité, on apprendra aux Français que toutes les langues sont géniales, que le français c'est génial comme toutes les langues, et que la diversité culturelle doit être défendue, ben je pense que les choses se passeront différemment.
On va maintenant passer une chanson, pas une petite, de Léo Ferré, concernant la langue française, qui s'appelle d'ailleurs La langue française. Une chanson de Léo Ferré. Et après nous passerons le Bobino, je pense.
Barmaid qu'est ma darling, mais in the bed c'est mon travelling, mon best-seller et mon planning, c'est mon starter after shaving. J'suis son parking, son one-man show, son fuel, son king, son slip au chaud, rien qu'un petit flash. Au 5 o'clock, j'paie toujours cash dans le bon Dieu scope et j'cause français. C'est un plaisir. C'est ma starlette, ma very good, mon pic galette, mon Hollywood. C'est ma baby au tifortou, c'est ma lady oh, un coucou. Je suis son jockey, son steeple chase, c'est la driver à la française, dans le sleeping car, after paillasse, à son milk bar, je me tape un glace et je cause français. C'est un plaisir. C'est ma call girl, ma savourex, qu'efface sa gueule à coup de Kleenex. C'est ma Lucky, c'est ma Palmal, ma camel qui fait ça pas mal. Quand c'est ok, on fait le remake. Quand c'est loupé, on fait avec. J'lui fais le mohair et la syntaxe. Très rock in chair, je shoot relax et j'cause français. C'est un plaisir. C'est une barmaid qu'est ma darling, mais in the bed, c'est du forcing, c'est du pam-pam à chaque coup de gong. C'est plus une femme, c'est un ping-pong. Quand je suis out, elle me sex appeal, et dans le blackout, je smash facile sur son standing in extremis. Je fais du pressing au self-service et je cause français. C'est un plaisir. C'est mon amour, mon coquelicot, mon petit bonjour, mon petit oiseau. And je speak French. C'est un plaisir.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
C'était donc les dérives de la langue anglaise, de l'anglicisation.
Ouais, parce que certains me disent, mais c'est pas grave, c'est juste des mots anglais, c'est des emprunts, c'est naturel. Là, j'ai pris un exemple un peu caricatural, et Léo Ferré a fait cette chanson pour ça. Au bout d'un moment.
Oui. D'ailleurs, à la fin, il dit, que c'est du français. C'est un plaisir.
Voilà, voilà, évidemment. Voilà. Donc, encore une fois, un peu d'emprunt, oui. Un peu d'emprunt à toutes les langues, oui. Mais bah, trop d'emprunt comme... à une seule langue, non. Voilà.
Un peu comme le film Bryce de Nice.
Ah, que je n'ai pas vu.
Oui. Avec. Du jardin et puis le regretté Bruno Solomon et c'était effectivement c'est un film complètement déjanté mais parce que c'était un français et pour faire californien et c'est Bryce de Nice
voilà
donc il attend la vague longtemps mais bon
voilà
et voilà donc effectivement ça montre les dérives, là, en chanson, c'est toujours très amusant. Bon, il faut pas non plus être trop catastrophique, puisque bon, je sais pas si vous avez vu que récemment, il y a un rapport de l'OIF, de l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui indique 396 millions de locuteurs. Ils ont légèrement changé les critères.
La méthodologie. Puisque,
oui, puisque en fait, ils ont considéré que les élèves d'à partir de 6 ans qui apprennent la langue française dans des pays où la langue française est langue officielle, sont pris dedans, ce qui n'est pas complètement illogique. En plus, il y a d'autres chiffres, hein, il y a des chiffres concernant le monde francophone, qui est plutôt près de 600 millions maintenant, puisque la francophonie, l'OIF, ne prend en compte que les locuteurs capables de... Alors que lorsque, par exemple, un investisseur va par exemple en RDC, puisqu'on reparle de République démocratique du Congo, il y a 112 millions d'habitants, l'OIF en prend 51%.
C'est ça.
Or, la population globale, les 112 sont baignés dans le bain quand ils prennent un bus, un transport, les affiches sont en français. Donc, il y a un bain culturel. Donc, ça dépend de l'optique que l'on a. Oui. L'optique peut être déjà 400 millions de francophones, et sans doute bientôt, donc on dit en 2050, 600, on ne sait pas trop.
C'est ça. Donc il y a des questions de méthodologie, c'est
voilà,
sûr. Mais à méthodologie inchangée, le nombre de francophones serait passé de 321 millions à 348. Voilà. Là, ils ont changé la méthodologie en ajoutant notamment les enfants de 6 à 9 ans, alors qu'avant on les prenait qu'au-dessus de 10 ans, on est passé de 321 à 398. Mais quoi qu'il en soit, le nombre
c'est
de
francophones. C'est en expansion.
Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Le nombre de francophones dans le monde est en expansion et ça va continuer. Voilà. C'est difficile de
et
savoir 65% combien.
65% se trouve en Afrique.
Alors voilà, c'est difficile de savoir combien il y aura de francophones dans 20 ans ou 30 ans parce que ça dépend de deux choses. Ça dépend de l'évolution de la démographie, particulièrement en Afrique francophone, et ça dépend surtout de la place du français dans l'enseignement dans ces pays-là. Imaginons, vous avez vu ce qui s'est passé au Niger, au Burkina Faso et ailleurs, que le français soit chassé de l'enseignement dans ces pays, et a fortiori en République démocratique du Congo, qui est un pays qui compte plus de 100 millions d'habitants. Si le français est maintenu comme langue d'enseignement ou s'il est exclu de la langue d'enseignement, il n'y aura pas le même nombre de francophones dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nombre de francophones est en forte expansion dans le monde, et ça va continuer, plus ou moins selon les critères que je donnais. Ça, c'est assez réjouissant pour deux raisons. C'est-à-dire que l'avenir du français est assuré à court et moyen terme. Je rappelle que la moitié des langues du monde sont menacées de disparition d'ici à la fin du siècle. Bon, le français n'en fait pas partie, c'est sûr et certain. La deuxième chose qui me paraît, la deuxième bonne nouvelle de cette expansion territoriale du français, c'est que le français s'enrichit d'imaginaires qui viennent d'ailleurs. J'aime expliquer que en Belgique, par exemple, nous avons l'après-midi en Belgique et à l'avant-midi. En France, on prend un rendez-vous. En Suisse, on agende rendez-vous. Et en Afrique, je trouve génial, par exemple, est-ce que vous savez ce que ça veut dire girafé?
Non.
Girafé, c'est quand, quand un élève se penche sur la copie du voisin pour copier sur lui. Vous voyez, c'est génial.
Oui, c'est très...
une eau, vous parliez de la République démocratique du Congo. Une eau gazeuse, ça se dit une eau à ressort.
Ah, c'est
vous voyez, vous avez camemberé, comme quelqu'un qui s'en est pied, cadoté, un alphabet. C'est ravissant, un alphabet, c'est un mot d'origine africaine. Donc, vous voyez, le français s'enrichit d'imaginaires venus d'ailleurs, et de manière très significative, un prix Goncourt sur 5 a été donné depuis 30 ans à un homme ou une femme qui n'avait pas le français pour langue maternelle. Donc ça, c'est formidable. Il y a une conséquence, qui ne plairait pas à tous, mais qui, moi, me paraît normale, c'est que la norme du français va se déplacer.
Oui, oui, oui.
La France est désormais minoritaire dans la francophonie. Si on considère qu'il y a, je pense, 65 millions de francophones en France sur 400 millions. Les
dictionnaires commencent à prendre en compte, d'ailleurs. Hein.
Tout à fait. Oui, mais il y a autre chose, la norme. Pourquoi la bonne manière de parler français serait-elle issue uniquement du quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, alors qu'elle est parlée partout dans le monde? Je pense que le français va devoir s'ouvrir à une plus grande diversité. L'Académie, me semble-t-il, faudrait vérifier, je crois que l'Académie espagnole, au sein de l'Académie, l'équivalent de l'Académie française, y siègent des personnes qui viennent d'Amérique latine.
Oui,
voilà, je pense, moi je souhaiterais que l'Académie française devienne une académie de la francophonie et que siègent au sein de cette instance des locuteurs du français venant de toute la francophonie, vraiment, et que là...
Il y a quelques académiciens qui viennent...
Tout à fait, vous avez tout à fait, qui viennent d'ailleurs, et c'est très bien, mais... On continue de définir le français un petit peu trop, selon moi. On peut ne pas être d'accord, là, c'est un jugement, si je puis dire, ça n'est pas une vérité. En disant, voilà, la seule bonne manière de faire les français, c'est celle-là, les autres sont des fautes. Non, je pense qu'il y a des variantes
français,
il faut qu'on s'ouvre à la variante.
Voilà, il faut considérer que les variantes, un petit peu, lorsqu'il y a eu des réformes d'orthographe, il faut considérer que la norme ancienne est toujours valide.
Voilà, bien sûr.
N'empêche pas de décrire événement, voilà.
Très bon exemple.
Des choses de ce même... Topo, il ne faut pas s'arc-bouter sur des anciens.
Voilà.
Je sais que certains défenseurs de la langue française, sans doute, ne vont pas forcément être d'accord.
Oui, on a des débats entre nous, mais c'est très simple.
C'est inévitable. Si la langue française est parlée donc par 350, 400 ou 600 millions de personnes, à un moment donné, et surtout si le centre
se déplace. On est sûr que dans quelques années, le plus grand pays de la francophonie, le pays où on comptera le plus de francophones, ne sera plus la France, mais la République démocratique du Congo.
Avec un ami me faisait remarquer que les gospels ne sont chantés en français.
Ah oui.
Donc avec des paroles françaises sur les rythmes à la fois nord-américains, américains, africains. Et c'est en français, donc oui. Ça change beaucoup, puisqu'on comprend quand même.
Bien sûr.
Et donc ça change le... Bon, il y a beaucoup, c'est beaucoup d'évangélistes.
Oui, tout à fait.
Mais c'est chanté en français, et on le trouve très facilement sur Internet, sur YouTube, et on comprend. Là, il y a un changement d'habitude, et évidemment, les mots ne sont pas exactement... on comprend... Tout, un petit peu lorsqu'on va au Québec, il peut y avoir un petit peu, au départ on se dit tiens, et puis encore quelques heures, tout se passe, puis, même si un mot on ne comprend pas, on comprend le contexte, donc c'est pas gênant.
Bien sûr.
Donc là, si la langue française est présente sur 5 continents, inévitablement l'américain n'est pas l'anglais.
Oui.
Il y a plusieurs Américains maintenant, et l'Australien non plus.
Il y a déjà plusieurs Français en France.
Il y a plusieurs Français en France.
Selon les milieux sociaux, selon...
Oui, mais c'était moins marqué qu'en
anglais. Selon l'âge. Alors peut-être, ça je ne sais pas.
Parce qu'on dit souvent qu'on reconnaissait un Anglais en Angleterre, en Royaume-Uni, du quartier où c'était plus ou moins populaire.
D'accord.
Cockney, choses comme ça.
D'accord.
Et en France, c'était, à part les accents régionaux, comme vous avez fait avec Michel Appetit, un livre sur les accents. C'est vrai que la télévision française, il y a peu d'accent.
Si, il y a l'accent. C'est un certain accent. Tout
oui.
le monde a un accent.
Oui, voilà, c'est pas un accent. Oui. Étant né à Paris, on considère.
Voilà. C'est l'accent de la bourgeoisie francilienne, hein, en gros, qui a été donné comme accent standard.
Voilà, je suis né à Paris. Et après, j'ai su mes parents quand j'avais 13 ans à Caen, en Normandie. Alors, il n'y avait pas de différence. Il y avait un petit peu d'intonation, mais il y avait quelques différences de vocabulaire.
Oui, sans doute.
On ne disait pas un cartable, on disait une carte. T'as oublié ta carte. Ah, la première fois, ouais. Je dis oui, on ne dit rien. Puis bon, c'était le cartable. Voilà, c'était drôle. C'est drôle d'avoir.
Et pour moi, c'est une richesse.
Oui, oui, c'était, voilà. C'était pas gênant. Comme ça, maintenant, on comprend. Non, voilà. C'est intéressant. Donc effectivement, là, les différences vont être un petit peu plus fortes.
Oui,
on vient effectivement de République du Congo.
Pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Quoi. Mmh. C'est une manière d'enrichir le français.
Donc, à dire, on voit, parce qu'il y a quand même des académiciens, je crois que c'est Denis Laferrière,
oui.
Qui est académicien et qui vient de...
Il est à la fois haïtien et canadien.
Voilà, haïtien et canadien, donc
Oui, l'académie s'est ouverte et c'est très bien.
Il y avait Senghor, il y a eu Senghor un temps.
Tout à fait.
Mais Senghor parlait quand même un français classique.
Voilà, il visait, mais c'est normal, parce qu'il avait besoin de montrer qu'il maîtrisait le français aussi bien que les autres, donc il pouvait pas, c'était compliqué pour lui de défendre la variation.
Bah, c'était comme vous expliquiez, les Gaulois qui étaient dans l'entourage de César, comme Vercingétorix était un temps l'entourage de César avant. C'est classique, ça, que le colonisé devient, après, il se retourne et... Oui. Et donc, il connaît force,
il connaît les
coutumes et les codes. Et donc, après, malheureusement, il a perdu. On ne parlerait pas, peut-être pas.
Ah, oui, on serait en train de parler gaulois.
C'est sûr qu'on c'est un peu compliqué. On regrette dans des Gaulois un petit peu, mais en même temps. en France, on a quand même perdu. Les gens ont perdu. C'est quand même pas complètement courant. Le Celte, le grand gaulois, a disparu complètement.
Alors, à ceci près, que nous avons encore la chance. Les Bretons.
Oui,
nous avons là. Vous voyez, c'est pour ça que je suis très profondément patriote. Mmh. Voilà, mais je défends avec ferveur les langues régionales. Mais si, imaginons que le breton disparaisse. Le breton est la seule langue celtique parlée encore sur notre territoire, donc la seule langue qui nous rattache à notre passé gaulois. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a de plus français que ça? Si le breton disparaît, ça n'est pas juste
aussi du celte qui vient de Grande-Bretagne.
Tout à fait. Hein, j'ai parlé de langue celtique.
Oui, celtique.
Voilà. Ce serait trop long d'expliquer l'origine du breton. Mais si le breton disparaît, ça n'est pas juste un problème pour la Bretagne. C'est un problème pour la
pays,
France.
Doué à Menbro.
C'est un problème pour la France. C'est pour ça que défendre les langues régionales, c'est pour moi être un excellent patriote, parce que je défends le patrimoine de la France.
En Bretagne, maintenant, j'ai vu récemment qu'en Bretagne, beaucoup de panneaux sont maintenant doublés en français et en breton. Breton. Mais il y a la langue galaise.
Galaise, tout à fait. Il y a deux langues en Bretagne.
Il y a deux langues en Bretagne.
À l'ouest, le breton, qui est une langue celtique. À l'est, le gallo, qui est une langue romane. Voilà, donc qui est
une langue romane.
C'est une langue d'Orule. Voilà, donc
c'est pas du français.
C'est pas du français de Paris, comme le normand, le champenois, le lorrain, le picard. Il y a le gallo.
Qui a un peu de difficulté parfois.
Oui, mais qui progresse aussi.
Qui progresse.
Et il faut défendre toutes les langues.
Oui, d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, ça progresse.
Tout à fait. Il y a eu un mouvement militant qui s'est créé. La prise de conscience a été plus tardive, parce que comme ça ressemblait aux Français, les gens considéraient qu'ils avaient subi la propagande. Disons, c'est pas une langue, c'est du patois, c'est une déformation du français.
Une déformation.
Non, c'est l'évolution spécifique du latin dans cette région particulière. Et là, les gens en ont pris conscience depuis 10-20 ans, et maintenant, ils commencent à avoir
plein de choses. D'ailleurs, il y avait un proverbe qui court France et Bretagne, ni mère ni compagne. Alors, c'est Bretagne et Compagne.
Ah.
Et donc c'était contre le fait que des Bretons, même de langue galaise, allaient avec les. C'est très compliqué l'histoire de la Bretagne.
Oui, là, ça nous amènerait.
Donc, c'était un peu contre
les.
Peut-être contre du Guesclin et tout ça. Mais c'était un proverbe gallo.
Tout à fait.
Donc effectivement, c'est. Il nous reste encore. Heureusement, encore quelques minutes. Donc, parce que la question des langues, c'est aussi le rapport. Bon, il y a les élites, mais c'est quoi? C'est la négligence des élites, on l'a dit. C'est la complaisance. C'est aussi la volonté de copier une langue qui réussit.
Mais je vais ajouter une chose. Moi, je m'oppose à l'abus des anglicismes pour une raison sociale et démocratique. On estime que 80% des Français ne sont pas à l'aise avec l'anglais. 20% sont à l'aise, 80% ne sont pas à l'aise. En majorité, ces personnes appartiennent aux classes modestes de la société, ce qui n'est évidemment pas une critique. Quel est le message implicite que font passer les élites, entre guillemets, au peuple, quand ils utilisent des mots anglais qu'on ne comprend pas? Quand par exemple, je prends cet exemple entre mille, quand Peugeot fait une publicité qui s'appelle « Unburrowing the future », rendre le futur moins ennuyeux. Je ne comprends pas. Quel est le message qu'on me donne? Tu comprends pas?
Oui.
Oh mon pauvre vieux, tu comprends pas l'anglais, mais t'es un raté.
Dans une entreprise, dans une réunion comme ça, si on quelque soit cadre, moyen, le personnel qui comprend pas, il va pas souvent le dire.
Mais bien sûr, on lui met la honte, comme disent les jeunes. Et donc le message implicite, c'est de dire, mais t'es un raté mon pauvre vieux. Et ça, attendez Marc, ça s'appelle, il y a un concept qui existe qui s'appelle la violence symbolique. J'utilise mon savoir dans le langage pour montrer à l'autre que je suis supérieur à lui. Et ça, je suis désolé de le dire un peu violemment, mais ça, c'est une attitude conforme à l'ancien régime, qui était un régime de classe sociale, où l'aristocratie d'ordre. Avait le pouvoir d'ordre et méprisait le peuple. Bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est conforme aux valeurs de l'ancien régime. C'est le contraire des valeurs républicaines. La République, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et donc, ces gens-là, qui se croient branchés, modernes, etc., ils ont une attitude de mépris de classe, profondément contraire aux valeurs républicaines. Donc moi, je prétends qu'en m'opposant à l'abus des anglicismes, je défends aussi le peuple. Et je souhaite que tout le monde puisse comprendre. Nous avons voté hier, oui. Et nous allons voter dans un an. On exclut des gens du débat démocratique en utilisant des mots qu'ils ne comprennent pas. Et ces gens-là, le pire, c'est pseudo-élite, nous disent « Nous, on est bonheur, vous êtes ringard ». Moi, j'aimerais qu'on explique en quoi il est ringard de permettre à un salarié de comprendre son contrat de travail en français. Permettre à un consommateur de disposer d'un mode d'emploi en français quand on achète un produit pour lequel on a économisé pendant des mois. De permettre à un ouvrier de comprendre les consignes de sécurité de son usine. De permettre à tout citoyen de comprendre les termes du débat démocratique et de s'exprimer. C'est nous les ringards, mais non, c'est eux les ringards.
Alors heureusement, la loi Toubon concernant la consommation, ça c'est respecté. Voilà. Pour le loi du travail, c'est aussi...
Ça marche très bien. Mais nos pseudo-élites se moquent de la loi Toubon. Voilà. Et si on veut la moderniser, ce que je souhaite profondément, ils vont s'opposer à nous. Mais il faut assumer. C'est eux les ringards parce qu'ils défendent une société d'ancien régime et c'est nous les modernes parce qu'on défend et la diversité culturelle et le pacte social et démocratique français qui permettent à tout le monde de s'exprimer.
Même si pendant la Révolution, à Terreur, les langues régionales n'ont pas été...
Mais ça a été une catastrophe.
Ils ont été une catastrophe.
Ça a été une catastrophe. On reviendra.
Nous avions un entretien le 14 juillet dernier. Je crois que la mission va se terminer. On va peut-être... entendre une chanson d'une Suédoise qui s'appelle Frederica Stahl, qui s'appelle Au Parfum, et ça va se terminer sur une chanson en français d'une Suédoise, et nous nous retrouverons le 20 avril à 10h, lundi 20 avril à 10h. Merci.
Tes bras joyeux coulent les laves bras et hauts serre-moi fort dans tes bras joyeux pour de meilleurs
Vous venez d'entendre Français, mon beau souci, dirigé par Marc Favre d'Échalence, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 23 mars 2026 de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.